Edmond de Amicis, Cuore. Traduction française par Adrienne Piazzi. Octobre. La rentrée. Turin, lundi 17. C'est aujourd'hui la rentrée. Nos 3 mois de campagne ont passé comme un rêve. Ma mère m'a conduit ce matin à la section Baretti pour me faire inscrire au cours de 3e élémentaire. Quant à moi, je pensais à la campagne et allais à l'école à contre-cœur. Toutes les rues fourmillaient d'enfants. Les 2 boutiques de librairie étaient envahies par les parents qui achetaient des cahiers, des buvards, des serviettes de cuir. Devant l'école, il y avait tant de monde que le portier et le sergent de ville avaient peine à maintenir libre l'accès de la porte. Comme nous allions la franchir, je me sentis toucher à l'épaule. C'était mon maître de seconde, avec ses cheveux roux ébouriffés et son inaltérable bonne humeur. « Nous sommes donc séparés pour toujours, Henri, » me dit-il. Je le savais, et cependant ses paroles me firent de la peine. Nous entrâmes, non sans effort. Des messieurs, des dames, des femmes du peuple, des ouvriers, des officiers, des grands-mères et des domestiques, tous tenant un enfant d'une main et des paquets de l'autre, emplissaient la salle d'attente et les escaliers d'une rumeur toute semblable à celle d'une salle de théâtre. Je la revis avec plaisir, cette grande pièce du rez-de-chaussée où s'ouvrent 7 classes et que j'ai traversée presque tous les jours pendant 3 ans. Il y avait foule. Les maîtresses allaient et venaient. Une institutrice de la première me salua du seuil de sa classe en me disant « Henri, tu vas au premier étage cette année, je ne te verrai même plus passer. » Et elle me regarda avec tristesse. Entourée de dames fort troublées parce qu'on n'avait plus de place pour leurs enfants, je vis le directeur dont la barbe m'apparut un peu plus blanche que l'année dernière. Je trouvai mes camarades grandis, engraissés. Au rez-de-chaussée, où les répartitions étaient terminées, on voyait des enfants des classes élémentaires qui ne voulaient pas entrer et se butaient comme des ânons. Il fallait les faire entrer par force. Quelques-uns se sauvaient des bancs et d'autres se mettaient à pleurer en voyant leurs parents s'éloigner. Ceux-ci revenaient sur leurs pas pour les exhorter ou les consoler et les maîtresses se désespéraient. Mon petit frère fut mis dans la classe de Mademoiselle Delcati, moi dans celle de M. Perboni au premier étage. À 10 heures, nous étions tous en classe, 54 élèves. Parmi eux, je reconnus à peine 15 ou 16 de mes camarades de seconde. Il y avait entre autres Derossi, celui qui a toujours le premier prix. Comme l'école me parut petite et triste en comparaison des bois et des montagnes où j'avais passé l'été, je regrettais aussi mon maître de seconde, si bon, et qui riait toujours avec moi. Sa taille est si petite que l'homme nous faisait l'effet d'un camarade. Je regrettais de ne plus le voir là, avec ses cheveux roux ébouriffés. Notre professeur actuel est grand, sans barbe, avec des cheveux longs, tout gris, une ride au milieu du front, une grosse voix, et nous regarde fixement l'un après l'autre, comme pour lire au-dedans de nos cœurs. Il ne rit jamais. Je me disais en moi-même, « Voilà le premier jour, encore 9 mois avant les vacances. Que de travail, d'examen et de fatigue devant nous !» J'avais vraiment besoin de retrouver ma mère à la sortie et je courus l'embrasser. Elle me dit « Courage, mon Henri, nous étudierons ensemble. » Et je m'en retournai content à la maison. C'est égal, je n'ai plus mon maître si souriant, si gai et si bon. L'école ne me paraît pas aussi agréable que l'année dernière. Le nouveau maître. Mardi 18. Mon nouveau maître a su nous plaire à tous depuis ce matin. Pendant l'entrée, tandis qu'il était déjà assis à sa place, nous voyions apparaître de temps à autre à la porte de la classe quelques-uns de ses élèves de l'année dernière qui venaient le saluer en passant. « Bonjour, maître !»« Bonjour, monsieur Perboni !» Certains d'entre eux venaient lui serrer la main et s'en retournaient en courant. On voyait que les anciens l'aimaient et auraient voulu l'avoir encore pour professeur. Lui leur répondait « Bonjour !» serrait les mains qu'on lui tendait, mais ne regardait personne. À chaque salut, il s'inclinait avec son air sérieux, le front tourné vers la fenêtre, regardant le toit de la maison d'en face. Au lieu de le réjouir, ses marques de sympathie paraissaient le faire souffrir. Il nous regardait à notre tour, nous, les nouveaux, l'un après l'autre, avec attention. En dictant, il descendit de sa place et se mit à se promener entre nos bancs. S'apercevant qu'un enfant avait le visage tout rouge et couvert de petites boursouflures, il interrompit la dictée, prit la tête de l'enfant entre ses mains, lui demanda ce qu'il avait et lui tâta le front pour en sentir la chaleur. Pendant ce temps, derrière lui, un élève se leva sur le banc et se mit à faire le pantin. Le maître s'étant retourné vivement, l'enfant, surpris, s'assit en toute hâte et resta la tête basse, s'attendant à une réprimande. M. Perboni posa sa main sur l'épaule de l'étourdi et murmura « Ne le faites plus !» Ce fut tout. Il retourna à sa place et acheva la dictée. La dictée finie, le maître nous regarda un moment en silence, puis nous dit avec sa grosse voix, mais d'un ton plein de bonté. « Écoutez, mes enfants, nous avons un an à passer ensemble. Faisons de notre mieux pour le bien passer. Étudiez et soyez sages. Je n'ai pas de famille, c'est vous qui la remplacez. J'avais encore ma mère l'année dernière, elle est morte. Je suis resté seul, je n'ai plus que vous au monde. » Je n'ai plus d'autres pensées, d'autres affections que vous. Vous devez être mes enfants. Je vous aimerai, il faut que vous m'aimiez à votre tour. Je ne veux avoir à punir personne. Montrez-moi que vous êtes des garçons de cœur. Notre école sera une famille et vous serez ma consolation et ma fierté. Je ne vous demande point de me répondre, car je suis sûr que, dans votre cœur, vous m'avez tous dit oui et je vous en remercie. En ce moment, le portier entra pour annoncer la fin de la classe. Nous sortîmes tous de nos places en silence. L'élève qui s'était levé sur son banc s'approcha du maître et lui demanda d'une voix tremblante « Me pardonnez-vous, monsieur ?» Le professeur l'embrassa sur le front. « Allez, mon enfant, » lui dit-il. Un malheur. Vendredi 21. L'année a commencé par un malheur. En allant à l'école ce matin, tandis que je répétais à mon père les bonnes paroles que M. Perboni nous avait dites, nous vîmes tout à coup la rue pleine de monde. On s'arrêtait devant la porte de l'école municipale. « Mon Dieu, il est arrivé un malheur !» s'écria mon père. « L'année commence mal !» Nous entrâmes avec beaucoup de difficultés. La grande salle était remplie de parents et d'élèves que les maîtres ne parvenaient pas à faire entrer en classe. Tout le monde était tourné vers la porte du directeur et l'on entendait dire « Pauvre enfant, pauvre Robetti !» Au-dessus des têtes, au fond de la grande pièce pleine de gens, on voyait le casque d'un garde municipal et la tête chauve du directeur. Un monsieur à chapeau haute forme venait d'entrer et on murmura « Voilà le docteur !» Mon père demanda à un professeur « Qu'est-il donc arrivé ?»« La roue a passé sur son pied !» répondit-il. Et elle lui a écrasé le pied, dit un autre. La victime était un élève de seconde qui, arrivant à l'école par la rue Dora Grossa, avait vu un enfant de la classe élémentaire s'échapper des mains de sa mère et tomber au milieu de la rue, à quelques pas d'un omnibus en marche. Aussitôt, il s'était élancé hardiment au secours de l'enfant et l'avait enlevé dans ses bras. Malheureusement, la roue de l'omnibus avait passé sur le pied du courageux enfant. C'était le fils d'un capitaine d'artillerie. Pendant qu'on nous racontait cela, une femme entra comme une folle dans la grande salle, perçant la foule. C'était la mère de Robetti qu'on avait prévenue. Une autre femme, la mère de l'enfant sauvé, se jeta à son cou en sanglotant et l'entraîna dans la chambre du directeur. Nous entendîmes les cris désespérés de Madame Robetti. « Oh, mon Giulio, mon enfant chéri !» Nous étions tous navrés de cette scène. Un moment après, une voiture s'arrêta devant la grille et le directeur sortit de chez lui, portant le blessé dans ses bras. Le pauvre enfant était tout pâle et appuyait sa tête sur l'épaule du directeur, ses yeux demi-fermés. À sa vue, tout le monde se tut. On n'entendait que les sanglots étouffés de Madame Robetti. Le directeur s'arrêta un instant dans la salle et souleva l'enfant comme pour le montrer à tous. Alors, maîtres, maîtresses, parents et élèves s'écrièrent. Brave Robetti, brave et pauvre enfant !» On lui envoyait des baisers. Les maîtresses et les enfants qui étaient près du blessé baisaient ses petites mains inertes. Il ouvrit les yeux et murmura « Où est mon portefeuille ?» La mère du petit garçon qu'il avait sauvé le lui montra en pleurant. « Je l'ai, mon enfant chéri, » dit-elle, « c'est moi qui vous le porterai. » Madame Robette eut un sourire lorsqu'elle entendit parler son fils. Ils sortirent. Le blessé fut déposé dans la voiture avec précaution, on fouetta les chevaux. Et nous entrâmes tous dans nos classes, émus et silencieux. Le petit Calabré, samedi 22. Hier soir, pendant que le professeur nous donnait des nouvelles du pauvre Robetti qui devra marcher pendant quelque temps avec des béquilles, le directeur entra suivi d'un nouvel élève. Un garçon au visage brun, aux cheveux noirs, aux grands yeux expressifs, dont les sourcils épais se rejoignaient presque. Ses vêtements de couleur sombre étaient serrés d'une ceinture de cuir noir. Après avoir parlé tout bas à M. Peretti, le directeur laissa l'enfant près de lui et sortit. Le nouveau venu nous regardait de ses grands yeux avec une expression presque épouvantée. Le maître le prit par la main comme pour le présenter et nous dit « Vous devez être contents, mes enfants. Il entre aujourd'hui à l'école un élève né à Reggio de Calabre, bien loin d'ici, à l'autre extrémité du royaume. Accueillez-le bien, ce nouveau camarade. Il est fils d'une terre glorieuse qui a donné à l'Italie des hommes illustres et lui donne encore de bons travailleurs et de braves soldats. Son pays est l'un des plus beaux de notre belle patrie. Il y a de grandes forêts et de grandes montagnes et les habitants sont pleins d'intelligence et de courage. Aimez-le, mes amis, de façon à ce qu'il ne s'aperçoive pas qu'il est bien loin de son pays natal. Montrez-lui qu'un enfant italien trouve des frères, des amis, en toute école italienne où il entre. » Cela dit, M. Perbone y se leva et désigna sur la carte d'Italie dessinée au mur le point où se trouve Reggio de Calabre. « Ernest De Rossi » appela-t-il de sa voix forte. De Rossi, celui qui a toujours le premier prix, se leva. « Venez ici !» dit le maître. De Rossi sortit de son banc et s'approcha de la table du professeur à deux pas du petit Calabré. « Vous êtes le premier de la classe, lui dit M. Perboni, et comme tel, donnez l'accolade aux nouveaux venus au nom de tous vos camarades, l'accolade des fils du Piémont aux fils de la Calabre. » De Rossi s'approcha du Calabré et lui dit « Sois le bienvenu !» de sa voix fraîche et claire. Puis il embrassa bien fort sur les deux joues. Nous battîmes des mains. « Silence !» cria le maître. « On n'applaudit pas en classe !» Malgré cette défense, on voyait qu'il était content de notre élan. Le petit Calabré, lui aussi, paraissait content. M. Perbone lui montra une place, l'y conduisit et nous dit encore « Pour arriver au résultat que vous voyez, c'est-à-dire pour qu'un enfant de Calabre soit chez lui à Turin, tout comme un enfant de Turin a le droit de se croire chez lui à Reggio de Calabre, notre pays a lutté 50 ans et 30 000 Italiens sont morts pour la liberté. Aimez-vous donc tous comme des frères, car celui qui offenserait ce nouveau camarade parce qu'il n'est pas piémontais serait indigne de lever les yeux quand passe le drapeau tricolore. » À peine le petit Calabré fut-il installé à sa place que ses voisins lui donnèrent immédiatement des plumes, des crayons, des images, et un autre élève du dernier banc lui envoya comme témoignage d'amitié un timbre-poste suédois. Mes camarades, mardi 28. L'élève qui a envoyé un timbre-poste au petit Calabré est celui qui me plaît le plus en classe. Il s'appelle Garone. C'est le plus grand de nous tous. Il a presque 14 ans, la tête grosse, les épaules larges. Il est bon, cela se voit à son sourire. On dirait qu'il est toujours à penser comme un homme. Je connais maintenant beaucoup de mes camarades. Un autre qui me plaît aussi, parce qu'il a l'air toujours content, se nomme Coretti. Il porte un jersey loutre et un béret en peau de chat. C'est le fils d'un marchand de bois, ancien soldat pendant la guerre de 66, dans le corps d'armée du prince Humbert. On dit qu'il a 3 médailles. Il y a encore le petit Nelly, un pauvre bossu, qui paraît bien frêle et délicat. Il y en a un très bien mis qui enlève constamment les peluches qui s'attachent à ses habits et s'appelle Votini. Sur le banc qui est devant moi se trouve un garçon qu'on appelle le petit maçon à cause de la profession de son père. Sa figure est ronde comme une pomme et son nez épaté. Il possède un talent particulier pour faire le museau de lièvre. Tous les élèves le lui font faire pour s'amuser. Il porte un petit chapeau mou qu'il tient pelotonné dans sa poche comme un mouchoir. Près du petit maçon se trouve Garoffi, un grand maigre avec un nez en bec de corbin et des yeux tout petits. Il fait un trafic perpétuel de plumes, de boîtes d'allumettes et il écrit la leçon sur ses ongles pour la lire en cachette à la récitation. Il y a encore un petit garçon à l'air dédaigneux, Carlo Nobis. Il est placé entre deux élèves qui me sont très sympathiques. Le fils d'un serrurier, fagoté d'une jaquette qui lui arrive au genou, est si pâle qu'on le dirait malade, avec son air toujours effrayé et son sourire navré. L'autre, roux de cheveux, porte en écharpe un bras paralysé. Son père est en Amérique et sa mère est une fruitière ambulante. Mon voisin de gauche est encore un type curieux, stardi, petit et ramassé, le cou dans les épaules, grognant sans cesse, ne parlant à personne, sans grande intelligence, je crois, mais très attentif à ce que dit le professeur. Il l'écoute sans broncher, les yeux fixes, le front plissé, les dents serrées. Si on a le malheur de lui parler quand le professeur explique la leçon, il ne vous répond pas. Si on insiste, il vous lance un coup de pied, toujours sans dire un mot. À côté de lui est une figure dure et répugnante, répondant au nom de Franti. Il a, paraît-il, été déjà expulsé d'une autre école communale. Il y a encore deux frères, habillés de la même façon, avec un chapeau orné d'une plume de faisan, et qui se ressemblent trait pour trait. Le plus gentil de tous, le plus intelligent, celui qui aura certainement le premier prix cette année, c'est De Rossi. Le professeur, qui l'a deviné, l'interroge toujours. Décidément, j'aime bien Precossi, le fils du serrurier, celui qui a une jaquette trop longue et qui paraît souffrant. On dit que son père le bat, le pauvre petit. Il est timide. Chaque fois qu'il interroge ou qu'il effleure quelqu'un, il dit « Pardon !» en vous regardant de ses bons yeux tristes. Mais le grand Garonne est encore le meilleur de tous, je crois bien. Un trait de générosité. Mercredi 26. Justement, ce matin, nous avons pu juger Garonne. Lorsque j'entrai en classe, un peu en retard, car j'avais été retenu en bas par la maîtresse de la petite classe qui m'avait demandé à quelle heure elle pourrait venir à la maison. Monsieur Perbonne y n'était pas encore là. Et trois ou quatre garçons tourmentaient le pauvre Crossi, l'enfant aux cheveux roux, qui a le bras paralysé et dont la mère est fruitière. On le frappait avec les règles, on lui jetait à la tête des écorces de châtaigne, on l'appelait monstre estropié et on le contrefaisait. Tout seul, au fond de son banc, il restait atterré, écoutant, regardant tantôt l'un, tantôt l'autre, avec des yeux suppliants, afin qu'on le laissât tranquille. Mais les écoliers le tourmentaient toujours de plus en plus, si bien qu'il commença à trembler et à devenir rouge de colère. Tout à coup, Franti, celui qui a une si mauvaise figure, monta sur un banc et, faisant semblant de porter un panier sur chaque bras, singea la mère de Crossi quand elle vient attendre son fils à la porte. Depuis quelques jours, on ne la voit plus parce qu'elle est malade. En voyant cette pantomime, les élèves se mirent à rire. À ce moment, Crossi, perdant la tête, saisit l'encrier qui était devant lui et le jeta de toutes ses forces à Franti. Mais Franti para le coup et l'encrier alla frapper en pleine poitrine M. Perbonne qui entrait. Tous les élèves se sauvèrent, effrayés, à leur place et se turent comme par enchantement. Le professeur, très pâle, monta à son bureau et demanda d'une voix altérée « Qui a lancé l'encrier ?» Personne ne répondit. « Qui ?» répéta M. Perbonne d'une voix plus forte. Alors Garonne, ému de pitié pour le pauvre Crossi, se leva et dit résolument « C'est moi !» Le maître le regarda, regarda les écoliers surpris. « Ce n'est pas vous » dit-il d'une voix tranquille. Puis, après un moment, « Le coupable ne sera pas puni, » dit-il, « qu'il se lève !» Crossi se leva et dit en pleurant « On me taquinait, on m'insultait. J'ai perdu la tête, j'ai lancé.
Asseyez-vous, dit le maître, que ceux qui l'ont provoqué se lèvent, ajouta-t-il.
Quatre d'entre les provocateurs se levèrent, la tête basse.
Vous avez insulté un camarade qui ne vous avait pas provoqué, dit M. Perboni. Vous vous êtes moqué d'un infirme, vous avez attaqué un faible enfant qui ne peut se défendre. Vous avez commis l'action la plus basse et la plus honteuse qui puisse ternir l'âme humaine. Vous êtes des lâches.
Cela dit, le professeur descendit au milieu de nous et se dirigea vers Garrone, qui baissa la tête à son approche. M. Perboni lui passa la main sous le menton pour lui relever la tête et, le regardant dans les yeux,
« Tu es un noble cœur, » dit-il.
Garrone, profitant de l'occasion, se pencha à l'oreille du professeur et murmura deux mots. Celui-ci, aussitôt, se tournant vers les quatre coupables, leur dit brusquement
« Je vous pardonne !»
Ma maîtresse de première supérieure. Jeudi 27. Ma maîtresse a tenu sa promesse, elle est venue nous voir aujourd'hui, juste au moment où j'allais sortir avec ma mère pour porter du linge à une pauvre femme recommandée par la Gazette. Il y avait un an qu'elle n'était venue et nous lui avons tous fait fête. C'est bien toujours la même petite femme, coiffée d'un chapeau bordé de velours vert qui lui va mal, habillée sans aucune recherche, car elle a à peine le temps de lisser ses cheveux qui ont blanchi depuis l'année dernière. Elle a pâli aussi et tousse toujours.
« Et la santé ?» lui a demandé maman. « Vous n'y faites pas assez attention. »
« Qu'est-ce que cela fait ? » a-t-elle répondu avec son sourire à la fois gai et mélancolique.
« Vous parlez trop fort, » ajouta maman, « vous vous fatiguez avec vos élèves. »
Cela est vrai, on entend toujours sa voix qui domine toute la classe, je ne l'ai pas oubliée du temps que j'étais son élève. Elle parle sans cesse pour que les enfants ne soient pas distraits et ne s'assiedent pas une minute. J'étais bien sûr qu'elle viendrait, car elle n'oublie jamais ses anciens élèves, elle se rappelle leurs noms et les jours d'examen court chez le directeur pour savoir combien de points ils ont obtenus. Elle les attend à la sortie et se fait montrer les compositions pour voir s'ils ont fait des progrès. Beaucoup de ses anciens élèves qui portent des pantalons longs et ont une montre d'or, de grands élèves enfin, viennent encore la trouver du lycée. Aujourd'hui, elle revenait tout essoufflée du musée de peinture où elle avait conduit ses écoliers. Car chaque jeudi, elle les mène à quelques musées, leur expliquant tout ce qui s'y trouve. Pauvre maîtresse, elle a encore maigri. Mais elle est toujours vive et s'anime quand elle parle de sa classe. Elle a voulu revoir le lit dans lequel elle me vit quand je fus très malade il y a 2 ans, lit qui est devenu celui de mon petit frère. Elle l'a regardé un instant sans pouvoir parler. Puis elle s'en est allée, étant très pressée. Elle va voir un enfant de sa classe, le fils d'un cellier qui a la rougeole. Elle avait encore tout un paquet de devoirs à corriger, du travail pour toute sa soirée et une leçon d'arithmétique à donner avant le dîner à une boutiquière.
« Eh bien, Henri, m'a-t-elle dit en s'en allant, aimes-tu encore ta maîtresse maintenant que tu résous des problèmes difficiles et que tu fais de grandes compositions ?»
Elle m'a embrassée et m'a crié du bas de l'escalier.
« Ne m'oublie pas, Henri !»«
Oh, ma bonne maîtresse, non, jamais, jamais je ne vous oublierai. Quand je serai grand, je me souviendrai encore de vous et j'irai vous trouver au milieu de vos petits élèves. » Chaque fois que je passerai près d'une école et que j'entendrai la voix d'une institutrice, il me semblera entendre la vôtre, je me rappellerai les 2 années passées dans votre classe où j'appris tant de choses, où je vous vis tant de fois fatiguée et souffrante, mais toujours attentionnée, toujours indulgente, désespérée quand un élève tenait mal sa plume et ne pouvait perdre cette mauvaise habitude, tremblante quand les inspecteurs nous interrogeaient, heureuse quand nous avions des succès, toujours bonne et tendre comme une mère. Jamais, non, jamais je ne vous oublierai, ma chère maîtresse.
Dans une mansarde, vendredi 28. Hier soir, je suis allée avec maman et ma sœur Sylvia porter le linge à la pauvre femme recommandée par le journal. Je portais le paquet, Sylvia avait la feuille indiquant l'adresse et l'initiale de la malheureuse. Nous montâmes au dernier étage d'une maison très élevée dans un corridor où il y avait toute une rangée de portes. Ma mère frappa à la dernière. Une femme encore jeune, blonde, maigre, vint nous ouvrir. Il me sembla l'avoir déjà vue avec son fichu bleu sur la tête.
« Est-ce vous que l'on a recommandé dans le journal ?» demanda maman.
« Oui, madame, c'est moi. »
« Eh bien, nous vous avons apporté un peu de linge. » La pauvre femme nous fit des remerciements sans fin. Pendant ce temps, je vis, dans un des coins de la pièce nue et obscure, un enfant qui nous tournait le dos. Agenouillé devant une chaise, il semblait écrire avec application. Son papier était posé sur la chaise et l'encrier sur le plancher. Comment faisait-il pour écrire ainsi dans l'obscurité ? Tandis que je m'adressais cette question, voilà que tout à coup je reconnus les cheveux roux et la jaquette usée de Crossi, le fils de la fruitière, celui qui a le bras inerte. Je le dis tout bas à maman, tandis que la pauvre femme dépliait le paquet que nous lui avions apporté.
« Silence !» fit maman. « Peut-être serait-il humilié de te voir faire la charité à sa mère. Ne l'appelle pas !»
Mais à ce moment même, Crossi se retourna. Je demeurai embarrassée, lui me sourit, et maman me poussa vers lui pour l'embrasser. Je l'embrassai de bon cœur, tandis qu'il me prenait la main en se relevant.
« Voyez, disait sa mère à ma mère, je suis seule avec mon enfant. Mon mari est en Amérique depuis 6 ans, et pour comble de malheur, je suis tombée malade. Je ne puis plus aller par la ville vendre quelques légumes et gagner quelques sous. Nous avons vendu peu à peu tout ce que nous avions. » Il ne nous est même pas resté une table sur laquelle mon pauvre Louis puisse écrire ses devoirs. Quand j'avais un banc sous la porte en bas, au moins il pouvait écrire dessus, mais je ne l'ai plus. Nous n'avons point de lumière et le pauvre enfant abîme ses yeux à étudier ainsi dans l'obscurité. C'est encore un bonheur que je puisse l'envoyer à l'école municipale où on lui donne des livres et des cahiers. Pauvre Louis, il étudierait si volontiers. Ah, je suis bien malheureuse.
Ma mère glissa dans la main de la pauvre femme tout ce qu'elle avait dans sa bourse, embrassa Crossi et sortit de la mansarde, les yeux pleins de larmes.
Elle eut bien raison de me dire « Regarde ce pauvre enfant qui est obligé de travailler dans de si tristes conditions. Toi, tu as tout ce qu'il faut pour étudier, tu trouves parfois l'étude pénible. Ah, mon cher Henri, il y a plus de mérite dans une journée de travail du pauvre Crossi que dans ton travail d'une année entière. C'est à cela qu'on devrait donner les premiers prix. »
Mon père avait entendu les derniers mots prononcés par ma mère, et le même jour, je trouvais cette lettre sur ma table de travail.
L'école, vendredi 28.
Oui, mon cher Henri, l'étude est dure pour toi, comme te le disait ta mère. Je ne te vois pas encore aller à l'école avec l'allure résolue et le visage souriant que je voudrais te voir. Mais pense un peu de quelle inutilité et quelle chose vide serait ta journée si tu n'allais pas à l'école. Au bout d'une semaine, tu demanderais à main jointe d'y retourner. Tous les enfants étudient maintenant, mon cher Henri. Pense aux ouvriers qui vont à l'école le soir après avoir travaillé toute la journée, aux filles du peuple qui vont à l'école le dimanche après avoir été toute la semaine occupés dans les ateliers, aux soldats qui se mettent à écrire et à étudier quand ils reviennent de l'exercice. Pense aux enfants muets et aveugles qui étudient aussi et jusqu'aux prisonniers qui doivent apprendre à lire et à écrire. Songe le matin, lorsque tu sors, qu'à la même heure, dans la même ville, 30 000 enfants vont comme toi s'enfermer 3 heures dans une classe pour étudier. Pense encore à tous les enfants qui, presque en même temps, dans tous les pays du monde, vont à l'école. Évoque-les dans ton imagination, s'en allant par les sentiers des villages paisibles, par les rues, les cités animées, le long des rives, des mers et des lacs, sous un ciel ardent ou à travers la neige, embarque dans les pays traversés de canaux, à cheval par les grandes plaines, en traîneau sur la glace, par les vallées et par les collines, à travers les bois et les torrents, sur les sentiers solitaires tracés dans les montagnes, seuls, à deux ou par groupe, en longue file, tous avec leurs livres sous le bras, vêtus de 1000 manières, parlant des langues diverses, depuis la dernière école de Russie perdue sous les neiges jusqu'à la dernière école de l'Arabie ombragée de palmiers. Millions et millions d'enfants apprenant tous la même chose sous des formes diverses.
Imagine-toi cette fourmilière d'écoliers de 100 peuples différents, l'immense mouvement dont ils font partie, et dis-toi, si ce mouvement cessait, l'humanité retomberait dans la barbarie. Ce mouvement est le progrès, l'espérance, la gloire du monde. Courage donc, petit soldat de l'armée immense. Tes livres sont tes armes, ta classe est ton escadron, le champ de bataille est la terre entière, et la victoire, la civilisation humaine. Oh, ne sois jamais un soldat poltron, mon Henri. Ton père. Le petit patriote padouan. Récit mensuel. Samedi 29. Non, je ne serai pas un soldat poltron, mais j'irai bien plus volontiers à l'école si le professeur nous faisait tous les jours un récit pareil à celui de ce matin. Chaque mois, a-t-il dit, il nous en fera un semblable, il nous le donnera à copier, et ce sera toujours le récit d'une belle action accomplie par un enfant. Le petit patriote padouan, tel est le titre de ce récit. Un navire espagnol partait de Barcelone pour Gênes. Il avait à son bord des Français, des Italiens, des Espagnols, des Suisses. Parmi cette foule de passagers, on remarquait un garçon de 11 ans, mal habillé, se tenant toujours à l'écart et regardant tout le monde de travers. Il n'avait peut-être pas tort de regarder ainsi tout le monde. 2 ans auparavant, son père et sa mère, des paysans des environs de Padoue, l'avait cédé au chef d'une compagnie de saltimbanques, lequel, après lui avoir enseigné à faire quelques tours d'adresse, à force de coups de pied et de coups de poing, l'avait traîné à sa suite à travers la France et l'Espagne, le maltraitant sans cesse et ne le nourrissant pas à sa faim. Arrivé à Barcelone, ne pouvant plus supporter une existence aussi misérable, le pauvre enfant avait fui son tyran et était allé se mettre sous la protection du consul d'Italie. Celui-ci, ému de pitié, lui avait donné son passage à bord du navire en question et une lettre pour le préfet de Gênes, afin qu'il se chargeât de le renvoyer à ses parents. Ses parents qu'il avait vendus comme une bête de somme. Le pauvre enfant était en lambeaux et souffreteux. On lui avait donné une cabine de seconde classe. Les voyageurs le regardaient, parfois ils l'interrogeaient. Mais l'enfant ne répondait pas. Il semblait haïr tout le monde, tant les privations et les mauvais traitements l'avaient exaspéré et rendu sauvage. Pourtant, à force d'insister, 3 voyageurs réussirent à dénouer la langue du malheureux et, en quelques paroles frustes, moitié vénitiennes, moitié espagnoles, il raconta son histoire. Ces 3 voyageurs n'étaient pas italiens, mais ils comprirent la misère du pauvre enfant et, un peu par compassion, un peu parce qu'ils avaient bu largement à table, ils se plurent à lui donner de l'argent pour le faire parler. En ce moment, quelques dames entrèrent dans la salle sur laquelle s'ouvrent les cabines de seconde et les 3 voyageurs, pour se faire remarquer, donnèrent encore de l'argent au petit padouan tout en criant « Prends cela et encore cela !» faisant sonner l'argent sur la table. L'enfant empochait les pièces blanches et les pièces de cuivre, remerciant à demi-voix, selon sa façon grossière, mais avec un regard souriant et affectueux. Puis il se glissa dans la cabine, tira les rideaux et resta immobile en pensant à ce qu'il allait faire. Avec cet argent, il allait pouvoir goûter à quelques bons morceaux, lui qui depuis 2 ans mourait de faim. À peine débarqué à Gênes, il s'achèterait un habit convenable, celui qu'il portait depuis 2 ans tombait en loques. Il pouvait aussi espérer, en apportant un peu d'argent à ses parents, recevoir un meilleur accueil que s'il arrivait les mains vides. Cet argent était vraiment pour lui une petite fortune. Il pensait à tout cela derrière les rideaux tirés de sa cabine, l'infortuné, et il se trouvait moins à plaindre. Pendant ce temps, les 3 voyageurs assis à la table placée au milieu de la salle buvaient et parlaient de leur voyage et des pays qu'ils avaient visités. Leur conversation vint à tomber sur l'Italie. Un d'eux commença à se plaindre des hôtels, un autre des chemins de fer. Enfin, en s'échauffant mutuellement, ils finirent par dire du mal de tout ce qui est italien. Le premier disait qu'il aurait préféré voyager chez les Lapons, le second assurait n'avoir rencontré en Italie que des gens de mauvaise foi et des brigands, le troisième ajoutait que les employés n'y savaient point lire. « C'est un peuple ignorant !» disait le premier. « Sale !» ajoutait le second. « Vol !» s'écria le troisième.
Il allait dire « voleur », mais il n'en eut pas le temps. Une pluie de pièces jaunes et blanches s'abattit sur leurs têtes et leurs épaules, rejaillissant sur la table et sur le plancher avec un bruit métallique. Les trois voyageurs se levèrent furieux, regardant d'où pouvait venir cette avalanche, et reçurent encore une grêle de sous sur leurs habits.
« Reprenez votre argent !» leur criait avec mépris le petit padouan qui venait d'ouvrir les rideaux de sa cabine. « Je n'accepte pas l'aumône de ceux qui insultent mon pays !»